Oxford,
mécanisme velouté,
mixage fusionnel.
Bonsoir, Fluxfor continue ses émissions à la mezzanine d'Équinopolis après avoir exploré les paysages montagnards grâce à la participation chaleureuse des frères Larieux. Je suis toujours avec Nicolas, Olivier à mes côtés, mais nous partons donc dans un tout autre territoire, urbain mais certes mélancolique, avec Abdellah Taïa qui présente ce soir son court-métrage Cairo Streets. Écrivain et cinéaste d'origine marocaine, il a publié son premier roman Le Rouge de Tarbouche en 2004, puis L'Armée du Salut en 2006, qu'il a adapté au cinéma en 2013. Auteur de nombreux livres et récipient de prix international, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma, Taïa a réalisé son premier court-métrage « Ne jamais s'arrêter de créer » en 2023. L'année suivante, il signe son deuxième long-métrage « Cabonero », un film qui s'inscrit dans une continuité thématique récurrente sur l'apprentissage, la jeunesse, l'identité marocaine et l'homosexualité. Donc, ma première question, c'est: même dans vos romans, vous assumez beaucoup votre identité de cinéphile. Vous qui étiez déjà un écrivain célèbre à l'époque où vous avez réalisé votre premier long métrage, qu'est-ce que vous avez motivé de passer derrière la caméra, donc changer de format?
Merci beaucoup de me recevoir. En fait, le grand rêve de toute ma vie, c'est le cinéma. Depuis tout enfant, je suis devant les vieux films égyptiens qui passaient à la télévision marocaine, en noir et blanc, et déjà je me vois dans ces images. Je dirais même que ces images m'ont sauvé de la solitude en tant que petit enfant gay des années 70 et 80. Et vraiment, dans ma petite tête, il y avait déjà cette chose très claire, un rêve enfantin: un jour je serai réalisateur. Et en arabe, on dit moukhrij. Moukhrij, ça veut dire celui qui fait sortir les choses d'une certaine obscurité, qu'ils amènent à la lumière, à la réalité. Donc la littérature est venue après. C'est vrai, j'écris des livres, mais le but de départ, la décision première, a toujours été le cinéma, le cinéma, le cinéma. Et même quand j'écris des livres, j'ai pas l'impression que je change de format. Je reste toujours dans ce désir de films, de vieux, les images. Pour moi, c'est ce qui compte le plus.
Par contre, c'est vrai que la différence entre écrire un livre et faire du cinéma, c'est le dispositif, la lourdeur du dispositif. Faire un long métrage de cinéma, comme le font par exemple les frères Larieux qu'on a eu sur ce plateau avant vous, c'est toute une équipe, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de temps, c'est voilà, beaucoup d'embêtements aussi. Et dans Cairo Streets, votre caméra, elle est légère. C'est une caméra qui est le prolongement de votre main, comme lorsque vous écrivez finalement, le style, la voix de l'écrivain qui sort du stylo. Donc c'est une caméra stylo presque. Quand vous avez fait ces plans au Caire il y a maintenant quelques années, c'était dans une ambition comme ça de légèreté, un désir de légèreté par rapport à cette ville tentaculaire.
Tout d'abord, réaliser un film, mais au tout départ, il n'y a qu'un gars qui, avec un projet, il a un stylo ou un ordinateur, il écrit, avant même d'arriver à la réalisation. Les choses se compliquent une fois qu'on a le scénario et qu'on essaie de trouver l'argent, et qu'il y a tout un tas de monde, des gens qui veulent intervenir de ce qu'on veut faire. Mais au tout départ, bon, pour moi, je ne vois pas de différence. Au moment où j'écris un livre, je suis seul. Au moment où j'écris un scénario, je suis tout aussi seul. Le projet, il est entre moi et moi. Mais c'est vrai que pour faire un film, il faut énormément d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour y arriver. Pour ce qui concerne Cairo Street, j'ai commencé à tourner, si je peux dire, à filmer cette ville dès l'année de 2002. Et parce que je suis allé au Caire, au lieu d'être déçu par cette ville qui me faisait rêver depuis l'enfance, j'ai trouvé que la réalité de cette ville incroyable était incroyablement inspirante. Les gens étaient incroyablement chaleureux, humains. Il y avait des histoires qui se passaient tout le temps. Et assez curieusement, alors que j'ai encore peur quand je vais chez moi au Maroc, parce qu'il y a tout un tas de choses que je n'ai pas encore dépassées, je n'avais pas peur du tout au Caire. Alors j'ai acheté une caméra. Et je suis retourné en 2003. Et de 2003 jusqu'à 2010, je suis allé au Caire au moins deux fois par an et j'ai filmé. Et pour moi, c'était comme un défi Et je me suis dit, ah ben toi qui veux faire le réalisateur, tout ça, ben tu as là un champ, une liberté incroyable, c'est la ville et toi et tes souvenirs cinématographiques. Vas-y, prouve-nous que tu peux tenir une caméra et inventer quelque chose. Au tout départ, c'était ça le projet. Et le désir cinématographique, moi et la réalité, moi et cette ville que je connais par cœur. Mais il n'y avait pas le désir de faire l'écrivain dans cette ville. C'est vrai que cette caméra que je tiens, on peut facilement la comparer à un stylo, mais au tout départ, c'était juste moi, je veux être réalisateur, qu'est-ce que je peux faire ?
Voilà. Une forme d'atelier à ciel ouvert, le Caire comme un atelier cinématographique à ciel ouvert.
Voilà, et un défi que je me suis lancé à moi-même à travers cette ville et je dirais à travers le bouillonnement humain extraordinairement inspirant qui se trouve dans cette ville qui, moi, m'a totalement inspiré et aspiré.
Vous dites que vous vous approchez pas le Caire comme un écrivain, mais vous, je pense que c'est une mélancolie arabe qui se passe au Caire. Moi, ce qui m'intéresse, vous utilisez la caméra aussi bien pour capturer la vie urbaine de la ville, mais aussi de la cinéphilie dans Cairo Streets. Donc, vous avez une attention particulière à des petits indices qui renvoient au cinéma égyptien ou à des petites télévisions qui montrent, je pense, c'est de Cairo Station. Là,
c'est un film qui s'appelle Ils m'ont rendu criminel.
Ah oui, ok.
C'est pas La gare centrale de Youssef Chahine, c'est un autre film
okay.
qui s'appelle Ils m'ont rendu criminel. Mm-hmm.
Donc on voit justement ces images qui décorent un peu. C'est comme si ce sont des ornements culturels, cinématographiques que vous suivez, explorez. Donc pendant vos voyages, c'était aussi ça faisait aussi partie de vos projets cinématographiques de tracer ces lignes qui vous a aussi inspiré, comme un cinéphile qui part découvrir une ville et retrouver des lieux qui ont inspiré les films ou la culture justement.
Ce qui m'a fasciné dans cette ville dès 2002, c'est justement de voir ces vieux films qui ont été tournés dans les années 40, 50, des films arabes, égyptiens, qui continuent de circuler dans la réalité égyptienne. Et c'était pas dans des musées ou bien il y avait des gens intello ou bien des grands critiques qui étaient en train d'expliquer ces films au peuple égyptien. Le peuple égyptien continue de vivre avec son patrimoine, si je peux dire, cinématographique. Et ces films passaient tout le temps. Le Caire est la ville des cafés par excellence. Il y a des cafés partout. Il y avait des petites télévisions qui passaient en permanence ces vieux films. Et ce qui fait quand on voyage, quand on circule, quand on marche dans cette ville, le jour comme la nuit, il y a tout le temps le son de ces vieux films qui passe, qui est là dans la réalité quotidienne de tous les jours. Donc, je n'ai pas, moi, cherché à retrouver cette mémoire cinématographique. Elle, égyptienne, elle continue de circuler, elle est vivante. Et quand j'ai filmé le Caire, je n'ai pas pu, évidemment, m'empêcher de filmer aussi cette mémoire cinématographique que le peuple égyptien continue de célébrer d'une manière extrêmement vivante.
Et vous êtes allé voir un pan très important de cette mémoire, la présence de Youssef Chahine. Vous le connaissiez, j'imagine, avant de le filmer. On voit que dans les plans que vous montrez, il y a une certaine familiarité entre vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre lien à Youssef Chahine, à son cinéma, mais surtout à l'homme ?
En fait, ce qu'on voit dans le film, c'est un petit extrait de Youssef Chahine et de moi assis à côté de lui, comme si nous nous connaissions depuis des années et des années, est un véritable miracle. En fait, ce qu'on voit là, c'est la seule véritable fois que je l'ai rencontré. En fait, j'avais accompagné des journalistes de la radio France Culture, la radio française, et j'étais juste leur interprète. Je parle français, eux, ils ne parlent pas arabe, j'étais l'interprète. Et pendant qu'on réalisait l'interview pour France Culture et que les techniciens préparaient leur matériel, lui et moi, on s'est mis à parler. Et je pense qu'il a eu un petit peu d'affection pour moi. Il s'est dit « Ah, mais ce petit arabe, c'est qui, ce marocain ?» Il a commencé à me poser des questions pendant que les autres préparaient l'interview. Une fois que l'interview était terminée, qu'on est parti, c'est lui qui m'a rappelé à travers son assistant. Il m'a dit « Youssef Chahine a envie de continuer la conversation que vous avez commencée hier. » Et quand je suis allé le revoir, donc le surlendemain, je me suis dit « C'est une chance inouïe. Je vais essayer de garder un petit souvenir filmique de cette rencontre parce qu'il était très malade à l'époque. » Et dès que je suis arrivé, je lui dis, Youssef, est-ce que je peux filmer tout ça? Il a été tout de suite d'accord. On a réglé les lumières. On a décidé où mettre la caméra. Et c'est lui qui m'a dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Et c'est ce qui donne cette impression d'intimité, comme si nous étions des gens, voilà, qui se connaissent depuis longtemps. Et ça dit ce que ça dit, surtout sur cet homme. C'est une générosité incroyable, parce que je n'étais absolument rien pour lui. C'était juste quelqu'un qui traduisait, voilà, qui interprétait. Et il a eu cette générosité cinématographique et humaine inouïe. Il m'a laissé le filmer et il m'a donné de l'amour d'une certaine façon. Et j'ai jusqu'à aujourd'hui à peu près 1h30 de lui et moi en train de parler.
Et juste avant de laisser la parole à Aïkou, vous parliez d'intimité et de proximité vis-à-vis de Youssef Chahine, mais finalement, on a l'impression que cette intimité, cette proximité, elle concerne le Caire tout entier, ces habitants que vous rencontrez et qui ont l'air presque de vous connaître, en fait, quand ils vous voient et avec qui la discussion s'engage, mais vraiment avec un naturel de confondant. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve là-bas, partout et tout le temps.
Je pense déjà, les Égyptiens, entre eux, ils ont cette capacité énorme d'entrer en contact les uns avec les autres en permanence, d'inventer des histoires et de les vivre là, comme s'il y avait un réalisateur qui était en train de tourner un film. Et c'est ça ce qui fascine et qui nous rend addicts à cette ville, c'est qu'on a tout le temps envie de sortir et de vivre ces histoires avec ces gens. Donc moi, le réalisateur, c'est, on peut dire, qui tient cette caméra, en fait, j'ai l'impression que je ne fais qu'enregistrer ce qui se passe déjà entre eux et aussi comment leur mémoire cinématographique continue de circuler entre eux. C'est comme si, en fond, la vie que les Égyptiens vivent au présent était déjà inventée dans les vieux films et qu'eux, ils ne faisaient que des remakes de ces vieux films et que ça continue d'être réactualisé tous les jours. En fait, cette intimité dont vous parlez, qui peut s'approcher presque d'une facilité de ma part à aborder ces gens, en fait, ce sont eux qui entrent dans le film. Je pense qu'ils doivent voir que je ne suis pas là pour les voler ou bien pour les utiliser ou bien avec un regard pervers ou orientaliste sur eux. Et du coup, ils se donnent. Voilà, je pense que c'est visible dans les images de Cairo Streets, ce que ces gens, ils dialoguent avec la caméra au-delà de moi.
Vous parlez de votre regard. Ce qui m'a beaucoup impressionné en regardant le film, on sent vraiment de manière assez charnel le désir de chercher quelqu'un. Donc c'est comme si, j'utilise pas le mot utiliser, mais c'est comme si ce corps, ces gens aussi deviennent une sorte de toile de projection pour votre désir dans lequel vous le cherchez en profondeur. Donc moi, ma question, c'est plus comment chercher le désir à travers la caméra plutôt que le livre. C'est quoi les différences de l'écriture et peut-être l'image pour vous?
Bon, je vais me répéter, mais j'ai l'impression que pour moi, il n'y a aucune différence. Mmh. Parce que dès le départ, donc en 1980, j'avais 6 ans. Et donc, j'attendais les vieux films égyptiens. À l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision au Maroc qui passait une seule fois un film égyptien le vendredi soir par semaine. Donc, je passais ma vie à attendre l'arrivée de ce film égyptien. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Et à l'époque, on n'avait pas de cassette, de VHS, il n'y avait rien. Donc pendant que je le regardais, je l'apprenais par cœur, ce film, et je le repassais dans ma tête. Plus tard, quand je suis devenu écrivain, je crois que ce processus qui dialogue de cérébral hein, dans ma tête, dialoguant avec l'image, analysant l'image, racontant une histoire à travers les images égyptiennes ou bien marocaines, c'est ce qui continue de me dominer. Voilà. Donc pour le Cairo Streets, vraiment, ça va paraître peut-être presque naïf ou trop romantique, j'avais l'impression que je continuais ces vieux films égyptiens. Je ne faisais que la continuité de cela. Je ne me disais pas, il n'y avait pas le désir d'imposer à cette réalité quelque chose de théorique ou bien trop pensé. J'étais juste là simplement dans ce flot humain, ce flot d'histoire. C'est comme une rivière, comme ça, ce qui coule. Et je me suis mis dans cette rivière que je connais parfaitement, parce que je connais parfaitement les films égyptiens. Et je crois que les Cairotes, ils ont reconnu ça en moi, que je les connais, que je les aime. Ils se sont laissés aimer. Et voilà, il y a quelque chose de ça. Je n'ai pas voulu être trop théorique ou trop dans la pensée sur ces gens, comme si j'étais supérieur à ces gens.
Et l'écriture filmique qui accompagne aussi les images, est-ce que c'était déjà présent quand vous filmez ou quand peut-être une sorte de vision sur la temporalité des images et des textes ou des réalités qui l'accompagnent? Parce qu'on on lit, qu'on apprend que vous, cette écriture à la première personne, vous êtes à la recherche d'un certain Omar. Oui. Donc, est-ce que peut-être une vision temporelle de cette écriture?
En fait, comme j'ai filmé de 2002 jusqu'à 2010, voilà, j'ai à peu près quelque chose comme 16 heures de rush. Voilà, voilà, je peux tirer encore d'autres films courts-métrages de ces rushs. Et donc, à un moment donné, le temps est passé. Donc, 15 ans après la dernière fois que j'avais été au Caire, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris la décision au mois de mars dernier. Hein. Ce film est un petit miracle. Je me suis dit, j'ai senti que c'est le moment de le réaliser. Mais pas parce que le temps était passé, ou que tout d'un coup, ces images allaient comprendre comme une mémoire de ce temps qui est maintenant plus aujourd'hui de la même manière. J'ai senti que c'était le bon moment. Et évidemment, en regardant ces images, j'ai vu qu'elles contenaient qu'elles avaient enregistré à un certain temps. Le monde a bougé depuis, tout le monde a aujourd'hui des smartphones, tout le monde ne vit pas de la même manière sa quotidienneté. Et puis surtout, j'ai retrouvé dedans mon histoire d'amour avec la ville, et j'ai trouvé aussi les traces d'une histoire d'amour que j'avais eue avec un garçon qui, dans la réalité, ne s'appelait pas Omar, mais s'appelait Mahmoud. Et du coup, j'ai compris, voilà, je me suis dit, ah, j'ai réussi à enregistrer même cette histoire d'amour dans une ville qui a tellement célébré l'amour dans ses films. Parce que ce qui nous a impressionné, nous les Arabes, avec les vieux films égyptiens, c'est leur façon, c'est leur audace dans les paroles d'amour. Comment ils ont inventé des paroles d'amour en arabe. Et j'ai compris que c'est ça ce qu'il fallait faire une histoire d'amour gay entre Omar et moi, mais l'inscrire dans une quotidienneté égyptienne. Ne pas forcer le trait, ne pas faire un film gay comme on l'attend. Il fallait juste inscrire cette histoire d'amour dans la réalité quotidienne. J'espère que vous comprenez. C'était pour moi très important de ne pas forcer cette histoire d'amour gay d'une manière occidentale. Il fallait juste la laisser couler parmi ces gens. Alors évidemment, il y a les lois qui sont contre les homosexuels. Tout ça existe, mais existe aussi la potentialité pendant une heure ou deux, ou bien peut-être même quelques minutes, d'être révolutionnaire et de vivre cette histoire d'amour pendant un petit moment. Et ce n'est pas parce que les lois n'autorisent pas ces amours homosexuels que ces amours-là n'existent pas. Au contraire, même.
Mais aussi, je pense que concernant la fiction et le cinéma égyptien, les films eux-mêmes portent ces potentialités fictives en eux. Donc, quand on regarde un film, disons que où il y a un couple hétérosexuel qui font l'amour, ou bien il y a on projette le désir là-bas. Donc, je pense que il y a aussi ce côté la projection et les potentialités de films eux-mêmes qui nourrit le cinéma. En tant que tel, je ne sais pas.
Mais le cinéma est à la base est une histoire de désir et de corps. Parce que dès qu'on met une caméra et qu'on commence à filmer des corps, il y a une sensualité incroyable qui commence à déborder, à inonder tous les images et aussi même les spectateurs. Le cinéma est d'abord une histoire de silence, de hors-champ et de sensualité qui s'affirme au-delà de toutes les limites. Voilà. C'est pour ça que je parlais de lois qui interdisent certes l'homosexualité en Égypte et au Maroc et dans plein d'autres pays. Et ce n'est pas parce que ces lois-là existent que la révolution homosexuelle n'est pas possible. Elle existe même, comme je l'ai dit, même le temps d'un regard, même le temps de deux mains qui se touchent, de quelqu'un qui vous salue, on se comprend. Et c'est pas parce qu'il y a le policier n'est pas loin que nous, on ne va pas oser pendant un petit moment, être libre et être heureux d'une manière forte. Et après, évidemment, on revient à la quotidienneté où il y a tant d'interdits, mais la révolution entre nous en tant qu'être humain, elle est là et on l'invente et on la réinvente. Je voulais faire, en tout cas, Cairo Streets avec ce désir-là. Reconnaître comment les Égyptiens eux-mêmes inventent leur propre révolution entre eux. Je parle du peuple. Et ce n'est pas parce que le pouvoir ne les autorise pas à cela qu'eux ne sont pas capables de faire ça tous les jours. C'est très important de faire cette distinction et ne pas imposer aux gens qui souffrent de l'oppression une autre oppression qui est celle du réalisateur ou bien de quelqu'un comme moi qui va peut-être se croire supérieur à ces gens. Tout le challenge pour moi, ça a été d'être avec ces gens et dans leur propre révolution à eux. Ils n'ont pas moi venir leur expliquer ce qu'eux, ils vivent comme révolution.
Je voulais revenir juste sur la forme du film. On est ému hein, parce que vous nous dites 15 ans, vous avez dit, de prise de vue au Caire. Est-ce qu'on peut dire que Cairo Streets est une sorte d'extrait, peut-être une page ou deux, de ce long journal cinématographique que vous avez prolongé sur toutes ces années? Auquel cas, est-ce que vous avez été voir, vous, en tant que justement cinéphile, d'autres cinéastes qui ont proposé cette forme du journal filmé auparavant? Parce qu'on pense un petit peu à Alain Cavalier, par exemple, qui lui aussi investit le réel comme ça, de manière très libre, spontanée, légère, sans vouloir abîmer ce réel, sans vouloir changer les règles de ce réel, mais en voulant s'adapter à tout ça. Est-ce que, par exemple, ça a été un point de référence?
J'adore Alain Cavalier, je fais partie de ces gens qui l'admirent énormément, mais j'ai un problème avec moi-même, c'est que dès que je me mets à vouloir faire des choses, si je pense à des références, des gens, des grands noms, Alain Cavalier ou je ne sais pas, Hitchcock ou je ne sais pas qui d'autre, je me sens tout petit par rapport à mon projet. Ce qui m'aide à aller jusqu'au bout de ce que j'essaie de faire, c'est juste de me dire, c'est moi et la vie, moi, d'une manière simple et petite,
et pas humaine. Intimidante, ouais.
Pas intimidante, pas théorique, pas avoir, je vénère Bresson, je le vénère, j'ai l'impression que Bresson n'est même pas théorique, alors que plein de gens ne parlent de lui que de manière théorique. Mais je ne peux pas penser à Bresson comme moi, j'essaie de faire des choses. J'ai l'impression que je serai dans une imitation stérile et que je ne vais rien proposer de neuf. Ce que j'ai essayé en tout cas pour Cairo Streets et pendant que je filmais le Caire de 2002 à 2010, je me disais, je n'ai pas peur. Alors que dès que je reviens dans ma famille au Maroc, j'ai peur. J'arrive même pas à boire un thé à la menthe tranquillement. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je suis au Caire, dans cette ville où il y a 22 millions d'habitants, et que je suis avec une caméra et que tout le monde me voit filmer et que tout le monde répond à mon désir de filmer et personne ne m'arrête. C'est ça ce qui a fait que j'ai continué à filmer et à me continuer dans ce défi. Tu veux être réalisateur, bah prouve-le entre toi et toi, pas par rapport à un producteur ou bien pour aller au Festival de Cannes. Juste entre moi et moi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas filmer un gros plan? Comment tu vas faire un panoramique? Comment tu vas filmer ces gens? Ça a duré 9 ans, de 2002 à 2010. Et le Cairo Streets naît, j'ai l'impression, que le chapitre 1 de ce que je vais tirer de toutes ces heures de filmage que je peux dire qui ont duré toutes ces années. Et évidemment, avec le temps qui a passé, je me rends bien compte que ces images maintenant ont une autre valeur qui est celle du temps, la mémoire, le temps qui est passé, etc. Mais ça n'était pas prévu au départ, évidemment.
Alors, filmer le réel, mais aussi raconter une histoire et vous raconter une histoire, puisque vous nous l'avez dit, cet amant donc, qui s'appelle Omar, qui est un personnage de fiction, donc on va dire ça comme ça dans Cairo Streets, puisqu'il s'appelle Omar, mais qui dans la réalité s'appelle Mahmoud. Donc il y a eu un décrochage, un petit décalage, un pas de côté vers la fiction tout de même, j'ai l'impression, du coup, pour ce projet. Pourquoi justement ne pas avoir investi le réel tel qu'il est, tel qu'il était, la vérité des faits, et d'avoir voulu justement changer certaines choses pour peut-être aller vers plus d'universalité ou... Enfin, expliquez-nous.
Oui, mais le degré de fiction qu'il y a dans Cairo Streets, il est vraiment le minimum syndical. Hein.
D'accord.
C'est pas comme si on est en train d'inventer une fiction, un mélodrame avec des rebondissements. C'est juste une histoire pour guider les spectateurs, pour que ces images qu'on lui montre du Caire, des rues, des gens, ne tombent pas dans l'anecdotique et le touristique. Parce que si on enlève ce petit guide, cette ligne de fiction, ces images pourraient ne pas avoir cet intérêt que vous lui trouvez maintenant. Donc j'ai eu quand même ce souci de rajouter quelque chose qu'on appelle peut-être une valeur cinématographique, une valeur artistique, ou je ne sais pas, même si moi je n'aime pas ces expressions-là, mais juste pour guider le film et les spectateurs. Mais cette ligne que je propose de fiction, elle rejoint déjà la ligne que j'avais pendant que je filmais. Je sortais et je m'inventais un film tous les jours en marchant dans les rues. Donc ce n'est pas comme si j'ai inventé une autre ligne fictive qui n'a rien à voir avec ce que je vivais tous les jours. Et je peux vous assurer que le Caire elle-même me dépassait
dans sa capacité à inventer des histoires dans le vrai, dans le réel. Par exemple, toute la séquence où on voit les garçons qui dansent sur la barque, bah, pendant que je la filmais, bah, je savais que là, il y avait une histoire, une fiction, si vous voulez. Je n'étais là juste pour la prendre par la caméra, si je peux dire.
Je n'ai pas envie de faire des généralisations, mais surtout dans le cinéma essayistique, documentaire, ces dernières années, il y a une forte tendance à faire des autobiographies. Je pense que, je sais que dans votre œuvre, la dimension autobiographique a un aspect très important, mais il me semble que Cairo Street, c'est un film qui s'ouvre à un monde extérieur qui n'est pas auto-centré. Bien que vous assumez une sorte de personnage principal dans le film, c'est un... Dès votre garde, vous ouvrez envers le monde. C'est pas de dire que voilà, je vais faire un film sur moi-même. Vous partez pas de vous, mais vous placez vous-même, vous situez vous-même dans un environnement beaucoup plus complexe et social. Je pense que c'est ça qui m'impressionne beaucoup avec Cairo Street.
Merci énormément d'avoir compris ça, parce que moi, au départ, je ne voulais même pas que j'apparaisse dans le film. Mais à un moment donné, pendant le processus du montage et tout ça, j'ai compris avec le monteur qu'on avait quand même besoin de voir qui est ce gars qui filme, et qui filme avec une telle intimité, une telle fluidité, tous ces gens-là. Comment ces gens qui regardent la caméra, ils regardent qui derrière la caméra? Donc, j'ai mis ce petit gars qui s'appelle Abdelataya juste pour répondre à ce désir, et après, on l'oublie. Parce qu'il apparaît à peine, je crois, 4 fois dans le film, alors que le film en entier, c'est les autres. Les rues, les yeux, les gens qui saluent, les gens qui dansent, les gens qui marchent, qui mangent, la nuit, le jour. Voilà, tout ça, tout ce bouillonnement de la vie où il y a évidemment circulation des désirs, circulation des corps et plusieurs histoires d'amour, pas seulement la mienne.
Et cet homme à la caméra, qui est vous, qui est le filmeur, et qui est l'ambassadeur, qui est notre ambassadeur dans ce film et dans cette ville, il est en position d'attente, il est en quête. Et il se trouve que dans le film, on va laisser au soin au public de découvrir, d'avoir plaisir à découvrir la belle surprise qu'il y a à la fin, mais il y a une sorte de révélation, un moment qu'on pourrait qualifier de rossellinien. Et je voulais savoir, vous parliez que le degré de fiction était minimal dans ce film, mais est-ce qu'il apparaît à cet endroit-là, ce degré de fiction minimal, ou est-ce que le film contient effectivement ce miracle?
Non, le film contient déjà ce miracle par lui-même. Cette apparition finale, elle a déjà eu lieu dans la réalité. Et quand j'ai retrouvé dans la réalité ce garçon, je l'ai retrouvé de la même manière qui est dans le film. Je l'ai vu, il était là-bas, et le miracle a eu lieu devant moi, et j'avais la caméra. Alors, je l'ai retrouvé, et je l'ai filmé, et c'est devenu un miracle qui en contenait plusieurs. Donc, je savais qu'il fallait aller là, vers ça, cette inspiration finale, voilà.
Merci beaucoup, Abdellah. On doit le laisser pour que le film soit délivré dans les meilleures conditions aux spectateurs des entrevues ce soir. Merci d'avoir passé du temps avec nous pour parler de votre film. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous tous, et toutes mes salutations à vous toutes et tous.
Merci beaucoup.
Fluxfort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.